9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Celui qui, selon Monsieur Philippe Robichon, a été déclaré la semaine dernière comme étant le sosie de cet excellent acteur qui est Sean Connery, à savoir Maître Serran, vous salue. Bon, vous me direz, mon cher Philippe, qu'il vaut mieux avoir des airs de Sean Connery que de Paul Prébois. Hein, d'ailleurs, nos auditeurs ont-ils un souvenir
pour ceux qui s'en souviennent,
alors
là,
de Paul Prébois, ouais. Depuis que vous m'avez dit ça, deux clients, faisant référence à vos déclarations, m'ont fait la même remarque. Et plus je réfléchis à cette déclaration, et plus j'ai trouvé des points communs avec cet acteur. Il a eu du talent, eh bien Maître Serra n'en est pas dénué. Il a toujours été beau gosse, de tout jeune jusqu'à sa mort. Eh bien, je dois reconnaître que depuis tout petit, j'ai toujours été beau gosse. Et en plus, vous savez quoi? Plus je prends de l'âge et plus je m'embellis, contrairement aux femmes, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais, ça fait du bien de parler de soi en ces termes, mais cela n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est ce qui a fait l'actualité cette semaine, et notamment l'intervention de Macron, alias Pharaon Ier, qui a été suivi par près de 20 millions de téléspectateurs. Et là, j'ai une pensée pour vous, mon cher Philippe, car dans la mesure où vous avez plus de 65 ans, vous serez obligé de passer par la troisième dose, sinon plus de passe sanitaire. Faut croire que ce pays est composé essentiellement de bolos à plein temps. Le président Macron a fini à peine son intervention que des milliers de personnes allaient s'inscrire déjà pour la troisième dose. Sommes-nous donc des moutons? C'est bien triste et ce n'est même pas flatteur pour les moutons. Mais laissons ces histoires de vaccins pour évoquer cette situation qui terrifie l'Europe. Les migrants aux portes de la Pologne, donc aux portes de l'Europe. Ah, ce président biélorusse, Loukachenko, il emmerde tout le monde avec ses migrants, dont beaucoup d'Irakiens, de Syriens et d'Afghans, d'ailleurs, tiens, beaucoup d'Irakiens, de Syriens, d'Afghans, mais pourquoi? Ah oui, j'avais oublié le temps où les États-Unis, qui eux ne risquent pas d'être touchés par ces migrants-là, ont été à l'époque avec quelques pays européens, ont fait en sorte que l'Irak soit un pays totalement explosé, au revoir Saddam Hussein, idem pour la Syrie, totalement démantelé, au revoir Bachar el-Assad, et puis je ne parle même pas de l'Afghanistan, de la Tunisie, de l'Égypte, de la Libye, que les pays occidentaux ont voulu occuper sous prétexte d'importer leur démocratie. Alors aujourd'hui, les gars, ne vous plaignez pas. Vous allez simplement payer au centuple le fait d'avoir occupé ces pays qui ne vous avaient rien demandé, comme quoi il y a une justice. Allez, à vous la parole, appelez le 01 53 48 3000, posez vos questions, émission sous le contrôle de celui qui est désormais le chebané de la radio, monsieur Philippe Robichon. À vous, maestro.
Qu'est-ce que je vous ai fait, Maître Serran?
Bah, rien.
J'ai été gentil avec vous, et voilà.
Gentil. Alors, je vais pas répéter gentil, tout ce que vous me dites en off, mais non, vous avez pas été gentil ce matin. Que des critiques, notamment sur mon...
Non, j'ai pas fait de critiques, Maître Serran. Vous m'avez avoué que vous aviez froid ce matin.
Ouais.
Et je vous ai dit, bah, si vous voulez pas avoir froid, Maître Serran, commencez par mettre un caleçon.
Oui, c'est vrai.
Hein, voilà.
Bon, c'est vrai.
Donc, et j'irai pas plus loin.
Non.
Comme ça, vous, c'est vrai qu'il fait froid, Maître Serran.
Il
donc,
fait froid.
Vous mettez vos collants. Vous savez, ces collants en laine qu'on mettait quand on était petit.
Oui, mais c'est vrai que c'était sympa, ça. Oui, alors, anti-classe.
Non,
anti-classe.
C'était pas très glamour.
Ouais, voilà, on est d'accord.
Sous les
bras. Voilà, on est d'accord. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand t'avais ça, fallait pas avoir un rendez-vous avec qui que ce soit, ou alors se déslipper en pleine nuit. Mais voilà, sinon, c'est pas possible.
Donc, je suis sympa avec vous. Je veux effectivement que vous n'attrapiez pas froid.
Et nos bras.
Et voilà, nos bras, ouais, c'est exactement. Bien, Maître Serran, vous poserez vos questions à Maître Serran au 01 53 48 3000, à Sean Connery 01 53 48 3000. Mais nous allons parler de l'autorité parentale ce matin et du retrait de l'autorité parentale, Maître Serran. On va peut-être déjà définir ce que c'est que l'autorité parentale.
L'autorité parentale, je vais même vous citer l'article, hein, c'est l'article 371.1 du Code civil, c'est la possibilité, le droit pour monsieur et madame de prendre toutes les mesures qui concernent le ou les enfants. Alors pourquoi en fait j'ai voulu vous parler de l'autorité parentale, parce que j'ai été contacté il y a quelque temps par un père qui lui a été condamné pour des attouchements sur ses enfants et qui s'est vu retirer l'autorité parentale dans le cadre de la décision rendue par le tribunal correctionnel, ce qu'on peut évidemment comprendre et ce qui peut a priori semblait évident, et qui était venu me consulter donc pour demander s'il pouvait récupérer cette autorité parentale. Voilà, donc vous avez vu, en règle générale, mes sujets résultent toujours de ce qui se passe au sein du cabinet.
De votre pratique.
Voilà. Hein, donc, la question s'est posée par rapport à cela. L'autorité parentale, elle est par définition, en tout cas initialement, conjointe. Donc le père,
elle est exercée par les deux parents.
Elle est exercée par les deux parents, sans aucune distinction en la matière, tant que, entre guillemets, que tout se passe bien, alors que tout se passe bien à l'égard de l'enfant d'abord, puisqu'il faut pas oublier que l'exercice de l'autorité parentale se fait toujours dans l'intérêt de l'enfant. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a un retrait de l'autorité parentale, que ce soit l'un ou l'autre des parents, c'est toujours, là encore, pas pour... Alors, c'est toujours considéré comme une sanction pour celui qui se voit retirer l'autorité parentale, mais il faut bien comprendre que lorsque l'autorité parentale elle est retirée, c'est parce qu'on considère qu'elle doit être retirée, parce qu'il y a un problème concernant l'intérêt de l'enfant. C'est toujours l'intérêt de l'enfant qui doit primer en la matière.
Alors, qui peut demander ce... qui peut être à l'origine de ce retrait?
Alors, très souvent, mais là, c'est dû une absence d'information dans les cas d'une de procédure de divorce. Quand vous avez des litiges entre les parents, vous avez souvent l'un des parents qui vient vous dire, alors je veux divorcer, monsieur est violent, ou madame, enfin peu importe, il y a des histoires de violence, mais quand il y a des histoires de violence à l'égard des parents, donc souvent on vous dit je veux plus qu'il ait l'autorité parentale. Alors comme ça, de manière un peu facile, alors on leur explique que ça n'a pas d'incidence. C'est-à-dire que si évidemment vous invoquez des violences à l'égard de l'enfant, c'est un argument qui peut être soutenu, mais des difficultés entre les parents ne justifient pas, heureusement, le retrait de l'autorité parentale. Donc c'est vrai que souvent, dans le cadre des procédures de divorce, cette question se pose. Alors, on peut obtenir le retrait d'une autorité parentale, mais il faut quand même des éléments sérieux, des éléments musclés, encore une fois, ce qu'on peut comprendre, hein. Le retrait d'une autorité parentale est une mesure grave, et cette mesure, alors peut-être demandée par l'un ou l'autre des parents, elle peut être demandée par le représentant de l'État, le ministère public, c'est-à-dire que si il y a par exemple un signalement qui est fait et que le ministère public, le procureur de la République est saisi, donc il peut solliciter le retrait de l'autorité parentale.
Un signalement au département ou à l'ASE?
Absolument. L'ASE aussi est souvent à l'origine de ce type de procédure. Ça peut être aussi le fait d'une tierce personne. Alors c'est un peu plus compliqué en dehors de l'ASE, je dis n'importe quoi, mais un membre de la famille qui considérerait qu'il y a des difficultés, un voisin qui considérerait qu'il y a des difficultés. Alors évidemment, tout ça se fait pas à la légère, je le redis, le retrait de l'autorité parentale est une mesure grave. En fait, on vous raye, j'allais presque dire, du livret de famille en qualité de père ou de mère. Il y a des degrés dans le retrait de l'autorité parentale. Un retrait total de l'autorité parentale, ça signifie que juridiquement, entre guillemets, vous n'existez plus aux yeux de l'enfant. Donc pas de droit de visite, pas de droit d'hébergement, vous n'intervenez plus dans la vie de l'enfant. On a un retrait de l'autorité parentale, entre guillemets, light. C'est-à-dire qu'on peut vous le retirer, pour autant, vous restez toujours le père ou la mère de l'enfant, et donc vous pouvez quand même exercer un droit de visite, médiatisé ou pas, mais un droit de visite. Donc vous avez quand même un lien avec cet enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce retrait de l'autorité parentale, donc qui peut être ordonné par un juge civil dans le cadre d'une procédure de divorce ou même hors procédure de divorce, qui peut être ordonné, dans l'exemple que je citais, par un tribunal correctionnel ou par une cour d'assises, donc c'est juridiquement possible, le retrait de l'autorité parentale est toujours facultatif. C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité, avec un délai à respecter, c'est toujours un an après la décision prise, vous avez toujours la possibilité de revenir devant le magistrat et de solliciter ce retour à l'autorité parentale.
C'est pour combien de temps qu'on vous retire l'autorité parentale? Il y a une durée? Est-ce que c'est pour 3 ans, 6 ans, définitif?
Non, alors ça peut être effectivement... Alors voilà, il faudrait quand même des mesures graves, mais il n'y a pas de durée annoncée. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas, je vais vous retirer l'autorité parentale pour un an ou pour 2 ans. C'est-à-dire que celui qui se voit retirer l'autorité parentale peut, au bout d'un an, considérer que les conditions qui permettaient peut-être le retrait de l'autorité parentale n'existent plus, donc peut revenir devant le magistrat. Mais en règle générale, les magistrats s'embêtent pas à dire je vais vous retirer l'autorité parentale pendant 3 ans, ce qu'on peut comprendre dans l'absolu puisque les éléments sont changeants.
Donc il y a pas de durée.
Il y a pas de durée, c'est-à-dire que je vous retire l'autorité parentale si vous prenez pas l'initiative de revenir devant la juridiction, vous assumerez. Alors évidemment, à partir du moment ensuite, il y a une histoire de majorité de l'enfant. C'est-à-dire une fois que l'enfant est majeur, que l'autorité parentale vous soit retirée ou pas, concrètement, ça n'a pas ou ça n'aurait pas d'incidence. Mais
parce que l'autorité parentale tombe à la majorité, c'est ça ?
Alors l'autorité parentale, en fait, alors elle tombe pas à la majorité. C'est-à-dire que si vous êtes majeur et vous êtes encore à la charge de papa ou maman, vous avez toujours cette autorité parentale. Mais dans les faits, concrètement, on voit bien que à partir d'un certain âge, j'allais presque dire, il n'y a même pas besoin d'attendre la majorité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant, 16, 17 ans, pour des raisons lambda, n'a pas envie de respecter la décision qui a été rendue, je vois pas comment le père, la mère ou même les autorités policières, vous savez, souvent on a des parents qui nous disent il y a mon fils qui respecte pas la décision qui a été rendue par le juge. Quand le gamin a 12, 13, 14 ans, dont acte, quand il a 16, 17 ans, ça devient un peu plus compliqué de lui imposer une décision de justice s'il veut pas lui-même la respecter.
Quand on veut contester ce retrait, on a besoin d'un avocat ?
Non, il faut savoir que ce sont des procédures qui se passent alors en dehors de la procédure de divorce. Je le redis, cette demande de retrait d'autorité parentale peut se faire devant dans le cadre d'une procédure de divorce où là, l'avocat est obligatoire pour l'un et pour l'autre.
Mais ce père qui est venu vous voir, par exemple, parce qu'on lui avait retiré l'autorité parentale, est-ce qu'il aurait pu le faire sans avocat ?
Il aurait pu le faire sans avocat. Donc, en dehors de l'hypothèse où le retrait est sollicité dans le cadre du divorce, en dehors de ça, l'avocat n'est pas obligatoire. Je rajoute toujours, mais vous êtes maintenant habitué, qu'il est fortement conseillé, en particulier dans ce type de dossier, puisque ce monsieur part de loin. C'est très difficile, entre guillemets, d'aller soutenir soi-même sa position devant le magistrat. Et je vous dis, ce qu'on peut comprendre, et avec, entre guillemets, la situation et l'ambiance actuelle, et lui a été condamné de manière définitive, quand vous avez été condamné pour des faits de cette nature, donc des faits qui sont graves, c'est très compliqué d'aller tout seul devant un juge aux affaires familiales et de dire j'aimerais récupérer mon autorité parentale.
On appelle ça restitution de l'autorité parentale.
Absolument,
c'est ça.
C'est ça.
Et ça prend combien de temps pour la récupérer?
Ce type. Alors, dans l'hypothèse, évidemment, où vous êtes suivi par le magistrat, parce qu'un juge pourrait considérer que les éléments ne sont pas réunis ou que monsieur ne serait pas prêt à. Mais devant un juge aux affaires familiales, on est à minima sur on va dire entre 8 et 12 mois au niveau timing. Et si le magistrat considère que vous réunissez les éléments qui permettent de récupérer cette autorité parentale, la décision s'applique dès le rendu du jugement, qu'il faudra signifier, mais là c'est un peu technique, mais dès le rendu du jugement.
Maître Serran sur Beurre FM, si vous avez des questions à poser, des questions juridiques, vous appelez Maître Serran au standard 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, le vendredi, vous posez vos questions à Maître Serran, vos questions juridiques. Il vous suffit de composer un numéro, le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Et c'est Samir qui est avec nous, Maître Serran. Samir, vous êtes le bienvenu.
Oui, bonjour.
Bonjour Samir.
Bonjour Philippe, comment va?
Ça va bien et vous, Samir?
Ça va, il fait froid ce matin.
Il fait froid ce matin, vous avez vu ça?
Ah oui, moins 2 ce matin, 3.
J'espère que vous avez mis vos collants en laine.
Ah oui. En fait, j'ai deux petites questions, s'il vous plaît, à poser à Maître Serra.
Ah, il va vous faire un tarif de groupe. On y va.
D'accord, il n'y a pas de souci.
Alors,
Allez-y, on vous écoute. Vous avez commencé d'ailleurs par donner le numéro de votre carte bleue, puisqu'il n'y a pas de souci. On va vous prélever directement.
Ouais.
Oui, comme vous voulez. Sinon, un bon assiette de couscous.
Ouais, enfin, bon, à chaque fois que l'un d'entre vous me parle, c'est pour me dire, on vous invite pour le couscous. Je mange pas de couscous. Bah, je mangeais que le couscous de ma maman qui n'est plus là, la lahma, je mange plus de couscous. Donc ceux qui m'écoutent, ne me proposez plus de couscous, s'il vous plaît. Mais l'intention est bonne.
Allez, on y va.
Allez, on vous écoute, Samir.
Samir, question numéro 1.
En fait, je travaille dans une boîte de tout type de bricolage et j'avais un temps complet pendant 13 ans.
Ouais.
Et je me présentais pour être délégué personnel. J'étais élu. Et là, ils m'ont diminué mes heures. Ils m'ont complété avec les heures de délégation. Et chaque fois que je le parle, je le critique et ils me disent non, on a le droit. Et je veux savoir si c'est.
Ah, alors, pour répondre à cette question, faudra. Alors, je ne vais pas y répondre comme ça, puisque ça va dépendre beaucoup de la convention que vous pouvez avoir enfin dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc j'ai pas envie de vous apporter une réponse pas sérieuse. Ça, honnêtement, c'est du sur-mesure. Donc ça dépend beaucoup de la branche d'activité, de la convention qui réglemente votre activité. Donc ce que je peux faire éventuellement, si vous en êtes d'accord. Ou vous m'appelez peut-être un peu plus tard, parce que j'allais vous dire donnez-moi votre numéro, mais à l'antenne peut-être pas. Appelez-moi plus tard et puis il faudra simplement éventuellement m'envoyer votre contrat de travail et à partir de là j'aurai la possibilité de vérifier et puis de vous apporter une réponse un peu plus carrée, un peu plus complète.
D'accord,
oui. On peut faire ça. Donc ça c'est pour la première question, mais voilà, n'hésitez pas à me rappeler. En fin d'émission, enfin, ou une heure après la fin d'émission, le temps, comme dirait l'autre, que j'arrive à mon cabinet.
D'accord. Je peux voir le numéro ou je cherche sur l'internet?
Non, je peux vous le donner si vous avez de quoi noter.
06
62 58 59
64.
Voilà.
En fait, et une deuxième question, j'avais un entretien avec mon patron pour rapport à ce problème.
Ouais.
Et j'étais accompagné d'un directeur, secrétaire général du CGT.
Ouais.
Et on a commencé à discuter, et après il m'a traité comme quoi, il m'a dit, je te parais comme les tueurs de Charlie Hebdo.
D'accord. Comme ça, au cours de la discussion.
Comme ça, on parlait des heures et tout ça, après il m'a dit... Tu sais quoi, toi je te parais comme quoi, comme les tueurs des Charlie Hebdo.
J'ai pas compris le mot avant. Je te.
Je te. Comment il a dit.
Je te compare.
Je te compare.
Voilà. Oui. En fait, je viens de mettre l'appareil dentaire et j'arrive pas à parler.
Ah oui. Mais vous avez un appareil dentaire avec des.
Comme les tueurs des Charlie Hebdo.
Avec des bagues devant, vous avez des. Non,
c'est un appareil qui est un petit peu compliqué.
D'accord, bon. Alors, mais il a dit ça devant témoin ?
Oui, avec le secrétaire général de CGT.
D'accord. Il y a eu un échange entre vous ? Vous lui avez dit quelque chose ? Ou fameux secrétaire général a répondu quelque chose ?
Il a dit, c'est monsieur Samy, il va porter plainte, je veux être son témoin. C'est ça, qu'est-ce qu'il a répondu. Il a dit, il faut pas dire ça.
Évidemment, enfin voilà, donc vous avez un patron un peu débile manifestement. Donc ce qui est important, et ce qui est d'ailleurs difficile dans ce type de dossier, c'est le fait de pouvoir le prouver. Bon, vous avez un témoin et un témoin sérieux, donc voilà, il n'y a pas de difficulté, vous pouvez évidemment aller déposer plainte. Ça ne veut pas dire, vous avez bien compris, que tout ça va arranger votre situation et l'ambiance au sein de votre société, mais c'est légitime. Voilà, je trouve ça complètement stupide, pour pas dire hors la loi, de porter de tels propos. Mais vous pouvez, monsieur, avec le témoignage de celui qui vous a accompagné, déposer plainte, bien sûr. Et selon moi, je leur dis, je crois qu'il faut pas laisser les choses telles que. C'est tout simplement inadmissible.
D'accord. Et je peux même demander, parce que lui, il insulte tout le monde. Et je peux aussi demander la dommage d'intérêt ou
ouais, alors ça va être en fonction ensuite de la décision qui pourrait être rendue par un éventuel magistrat. Mais bien sûr, sur le principe, il n'y a pas de difficulté. Ça peut être l'une des conséquences du comportement de ce patron de boîte.
D'accord. Merci beaucoup, Maître Serra.
Merci à vous pour
votre appel. Merci, M. Samir.
Merci, bon courage.
Merci, Samir. À bientôt, Samir. Alors, nous avons Mourad qui est avec nous au 01 53 48.
Non, c'est pas
3000.
Possible, car Mourad est présent physiquement.
Non. Il y a un autre Mourad au téléphone, Maître Serran.
Oui. Alors, Mourad, on vous écoute.
Oui, bonjour, Maître. Voilà.
Bonjour, Mourad.
Bonjour. Voilà, mon souci et mon problème, en fait, suite à un accident que j'ai eu, j'étais victime d'un accident, suite à une chute d'arbre sur ma voiture. Et bien, du coup, j'avais un litige avec mon assurance, et ça a duré plus que 2 ans, donc c'est passé en 2019.
Ouais.
Et ben du coup, l'assureur, soi-disant qu'il n'arrive pas à rejoindre le propriétaire de la passerelle qui appartient à l'arbre, et il ne veut pas reconnaître que c'était sur son domaine. Et ben je suis en litige avec l'assurance, et voilà, je suis un petit peu perdu. Chacun envoie la balle à l'autre. Soit il dit que l'arbre appartient au propriétaire, l'autre dit non, c'est l'arbre, elle appartient au département. Et ben du coup, j'ai fait mes investigations, mes recherches. J'avais un document présent que l'arbre appartient au propriétaire. Et ben du coup, là, je suis un petit peu perdu, quoi.
Bah, d'abord, sur le principe, j'allais dire, tout ce timing pour savoir si l'arbre appartient à un propriétaire privé ou au département, ça me semble un peu long quand même. Ça ne doit pas être si compliqué que ça à établir. La position de votre compagnie d'assurance, c'est de dire quoi? Si c'est au propriétaire, je fais rien, ou si c'est au département, je fais rien. Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ça?
L'assurance, il me dit que le propriétaire de la passerelle, il ne reconnaît pas que l'arbre, ça lui appartient.
D'accord.
Donc, il répond même pas au courrier que l'assurance lui
envoie. Bon, d'accord, ça peut être le cas, mais c'est pas si grave. C'est-à-dire que si l'assurance fait le nécessaire, il répond pas, c'est un choix. Mais ça n'interdit pas à la compagnie d'assurance. Alors d'abord, j'allais presque dire de vous indemniser et d'engager ensuite une procédure contre ce type-là si l'arbre lui appartient bien.
Et ben du coup, effectivement, l'expert il est passé.
Ouais.
Et ben du coup, le fait que l'assurance ne veut même pas indemniser, il veut rien savoir. Il me dit que il n'a rien entre les mains. Voilà.
Enfin, il y a quand même un arbre qui est tombé sur votre voiture. Enfin, ça, c'est. Ça peut se constater.
Oui.
Et le véhicule est assuré.
Il est assuré, il est endommagé là, et depuis plus que 2 ans, je le garde encore dans le box pour la procédure. Ça dure encore trop longtemps.
Oui. Et lorsque l'expert est passé, il a bien constaté la réalité de votre histoire. Il conclut bien qu'il y a bien un arbre qui est tombé sur le véhicule.
Voilà, c'est ça.
Donc j'ai du mal à comprendre où est-ce que ça peut bloquer. Alors peut-être que votre compagnie d'assurance, si elle est interrogée par un avocat lambda, apportera une réponse. Mais là, de ce que vous êtes en train de m'expliquer, je vois pas où serait la difficulté. On a un fait qui est précis, vous venez de le décrire. Oui. On sait que l'arbre appartient à une personne dénommée, donc à un propriétaire privé.
Oui.
Après, que le propriétaire privé ne réponde pas aux injonctions, aux courriers de la compagnie d'assurance, ça n'a pas d'incidence. C'est à la compagnie d'assurance, je le redis d'abord, de vous indemniser, de récupérer ses sous en engageant éventuellement une procédure et de récupérer donc ses sous entre les mains du propriétaire. Mais donc, j'ai du mal à comprendre où est-ce que ça pourrait bloquer.
Ça bloque là pour l'instant, c'est que l'assurance ne veut pas m'indemniser.
D'accord, mais est-ce qu'il vous donne une explication? C'est-à-dire, est-ce que vous avez reçu un courrier qui dit on ne veut pas vous indemniser parce que il y a ceci, il y a cela?
Je ne me rappelle plus, je crois qu'ils ont envoyé un courrier, soit disons que le propriétaire ne veut pas reconnaître les faits ou quoi.
Ah non, mais vous n'êtes pas en train de dire c'est le propriétaire qui est venu crever les pneus de ma voiture, ça il pourrait ne pas reconnaître les faits, mais un arbre. Bon, quand l'arbre y tombe, ça fait des dégâts, ça se constate, ça se voit. Donc même si le propriétaire, de mauvaise foi, dit écoutez, j'y suis pour rien, et peut-être qu'il y est pour rien, mais si l'arbre s'est déraciné, s'il y a eu un coup de vent, il est responsable quand même. Donc il faudrait peut-être soit retrouver le courrier que vous êtes en train d'évoquer, soit leur demander de manière officielle à ce qu'ils vous fixent sur leur position. Alors ils vont peut-être dire non, mais au moins vous saurez pourquoi. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que je serai éventuellement en capacité de vous dire, entre guillemets, ça tient la route ou pas.
D'accord.
Mais faudrait déjà régler ce problème-là, le vrai motif, pourquoi est-ce qu'ils refusent.
D'accord. Ok. Bon.
Ben, vous avez l'air déçu par ma réponse, Mourad.
Non, non, c'est pas question parce que je suis un petit peu, voilà, c'est rien ce que vous dites, c'est concret. Et c'est que...
En tout cas, deux ans, ça me semble long.
Ouais, ben,
pour régler un truc qui, a priori, semble évident.
Est-ce que j'ai compris que par l'assurance, il essaie de gagner le temps jusqu'à ce que l'affaire soit étouffée, on n'en parle plus.
Enfin, vous savez, moi, ouais. C'est-à-dire qu'après, c'est comme toutes les procédures avec les compagnies d'assurance. Vous pouvez, dans un premier temps, puisque vous êtes assuré, donc c'est normal de vous adresser à eux. Leur mission aux compagnies d'assurance étant de vous indemniser quand on considère que vous réunissez les conditions. Maintenant, si pour une raison lambda, la compagnie d'assurance traîne des pieds, ne veut rien faire, vous avez aussi la possibilité d'engager une procédure contre la compagnie d'assurance.
C'est ce que j'ai fait.
Voilà, il y a cette option-là. C'est-à-dire que les tribunaux sont aussi là pour ça. Ouais. On peut tenter de régler un litige à l'amiable avec sa propre compagnie d'assurance et en règle générale, ça se règle à l'amiable. Mais une compagnie d'assurance récalcitrante, pénible, de mauvaise foi, ouais. Eh ben, on l'assigne devant une juridiction. Alors, est-ce qu'il faut en arriver là? Là, je sais pas. Mais, moi, je considère qu'avant de sortir l'artillerie lourde, il faut d'abord essayer de comprendre ce qui se passe. Et à partir du moment où manifestement chacun reste sur sa position et que la compagnie d'assurance refuse ou refuserait de vous indemniser alors que c'est pas justifié, pouvez passer un cran au-dessus. Hein.
D'accord, ok. C'est ce que j'ai fait. Le dossier est entre les tribunaux, entre les mains des tribunaux. Je veux voir ce qu'ils vont me répondre. Voilà, c'est ce que j'ai fait.
D'accord, très bien, Mourad.
Merci, Mourad.
Ben, je vous remercie, maître. C'est gentil.
Merci à vous pour votre appel. Bon courage.
Merci de votre question. Merci. Alors, maître Boily au standard, est-ce qu'on a le temps de prendre un auditeur ou nous marquons une pause? Non, on accueille Kamal qui est avec nous. Kamal, bienvenue.
Oui, bonjour, Philippe. Bon. Bonjour, maître.
Bonjour, Kamal.
Ça va être une question courte, rapide. Je pense que celle est récurrente. Là, je suis convoqué parce qu'on était deux cadres dans un hôpital et puis mon collègue a été déjà convoqué pour, avec une lettre précédente signifiant que pour des sanctions allant jusqu'au licenciement, une lettre classique. Et c'est une nouvelle direction qui vient d'arriver. Ils sont en train de faire le nettoyage. Donc, je suis sûr qu'ils y trouveront toujours quelque chose. Donc, j'ai une réunion prochainement. Et je voulais savoir une question, comme moi j'ai envie de partir. J'ai envie de partir, donc je voulais demander une rupture conventionnelle. Est-ce qu'il est idéal de le faire avant l'entretien ou après l'entretien?
Oh, ça n'a pas d'incidence, honnêtement. C'est-à-dire d'abord qu'il n'y a rien qui vous interdit de l'évoquer avant, mais je crois que durant l'entretien, ce serait la meilleure des options. Il vaut mieux avoir quelqu'un en face de soi, d'abord voir éventuellement ce qu'ils auraient à vous reprocher. Et à ce moment-là, bien sûr, que vous pouvez soumettre l'idée d'une rupture conventionnelle.
Vous voulez dire à la fin de l'entretien?
Après, tout dépend, comme dire l'autre, comment s'engage l'entretien. C'est-à-dire que vous pouvez prendre l'initiative dès le début de l'entretien et dire, écoutez, voilà, si vous me convoquez, c'est qu'a priori, en gros, voilà, c'est pas pour vous donner une prime. Vous savez ce qui vous attend. Donc, avant d'attendre peut-être tout ce qu'ils ont ou auraient à vous reprocher, vous pouvez prendre l'initiative. Et puis, vous pouvez aussi attendre de voir tout ce qu'ils auront éventuellement à déverser contre vous. Et à ce moment-là, dire, bon, on peut peut-être éviter un litige se séparer tranquillement dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Donc, stratégiquement parlant, ça changerait rien.
Non, mais la question, c'était de dire, est-ce qu'on peut amener la question de la rupture conventionnelle s'ils vous ont dit déjà qu'ils veulent vous licencier?
Mais bien sûr, parce que on vous licencie si vous n'êtes pas d'accord, donc vous allez le contester, donc ça va se retrouver devant des tribunaux. Bon, alors si, vous savez, les sociétés, enfin, sauf quand elles sont certaines que vous avez fait quelque chose de très grave et puis on vous licencie, mais quand ils sont un peu borderline... les sociétés préfèrent qu'on se sépare tranquillement avec son salarié. Et il y a parfois des sociétés, alors on vous convoque a priori dans le cadre d'un entretien préalable qui prépare un licenciement, mais dans le cadre de cet entretien, ils peuvent aussi vous soumettre l'idée d'une rupture conventionnelle. Donc c'est tout à fait possible, il n'y a pas de difficulté là-dessus.
D'accord. Alors, c'est parce que le collègue a été déjà convoqué, ils ont sorti des erreurs, enfin, banales, style, vous n'assistez pas aux réunions, des cadres, souvent, vous ne faites pas partie des gens qui veulent faire des formations. Enfin, ce n'est pas des fautes graves.
C'est pas soi, super grave, ça, jusque-là.
Oui, ça me semble un peu léger pour. Enfin, sauf si vous avez des formations obligatoires qui feraient que, mais si c'est une formation au bon vouloir des uns et des autres, ça me semble un peu tiré par les cheveux. Et cette histoire de convention, de rupture conventionnelle a été évoquée par votre collègue ou pas du tout ?
Du tout.
D'accord.
Du tout, c'est moi qui ai envie de partir parce que j'ai d'autres opportunités, je suis déjà sur certaines choses, donc voilà.
Non, écoutez, ça peut être l'occasion de se séparer, entre guillemets, gentiment et tranquillement. Voilà. Donc, si vous en parlez pas spontanément, vous pouvez, alors, dès le début de l'entretien, si vous le souhaitez, ou d'abord, vous les laissez dire ce qu'ils ont à dire, et puis soumettre cette option.
D'accord. Bah, parce que moi, je pensais leur écrire une lettre avec accusé de réception, en disant, voilà, je souhaiterais prendre...
C'est pas interdit, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous souhaitez prendre l'initiative avant même ce rendez-vous pour l'entretien préalable, vous pouvez le faire. Encore une fois, je le redis, stratégiquement, ça va pas bouleverser la donne. Maintenant, il pourrait effectivement, s'ils reçoivent ce courrier en temps et en heure, alors vous contacter avant la date butoir.
Et y contacter, annuler l'entretien.
Bien sûr, ça peut être une option s'ils sont eux aussi évidemment dans cet état d'esprit. Donc voilà, vous pouvez aussi prendre cette initiative, mais sur un plan procédural, ça bouleverse pas la situation.
C'est ce que je voulais savoir législativement, si vous voulez.
Au niveau purement juridique, ça transforme pas tout ce qu'on est en train de se dire. Il n'y a pas de difficulté.
Ben écoutez, je vous remercie énormément.
Merci à vous pour cet appel et bon courage.
Au revoir.
Merci. Merci Kamel. Allez, d'autres appels. Vous avez des questions juridiques à poser à Maître Serran. Vous profitez de la page de publicité pour composer le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et c'est Maître Serran qui officie le vendredi entre 9h et 10h. Je vous rappelle que demain, vous retrouverez l'imam Abdelali Mamoun entre 10h et 11h pour l'islam au présent, spéciale dédicace à l'imam.
Depuis longtemps, je n'ai pas vu mon ami l'imam. Il est toujours aussi gros ? Non, enfin, il n'était pas gros, il avait juste un gros ventre. Mais est-ce que ami Abdelali Mamoun a toujours un gros ventre ?
Comment voulez-vous que je rebondisse avec ça, Maître Serran ?
Sur son ventre !
Je vais vous laisser tout seul, hein. Vous allez tout gérer, le standard, les questions des auditeurs.
Bon, j'arrête.
Tiens.
C'est vrai.
Il est grossophobe, exactement.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Est-ce que nous, on est chauvophobe?
Non.
Bon, ben alors.
Je suis pas concerné.
Tiens, Nadia est avec nous. Nadia. Bon,
c'est faux. Nadia est en face de moi. Vous dites n'importe quoi, aujourd'hui.
Il y a Nadia au téléphone aussi.
Ah bon?
Nadia, bienvenue. Coucou, Nadia.
Oui, allô?
Bienvenue, Nadia. Maître Serran vous écoute.
Docteur, je veux dire.
Oui, mais allez-y, vous ne gênez pas. Bonjour, Nadia.
Oui, bonjour, Maître Serran, Philippe, toute l'équipe de Beurre FM. Moi, j'aurais aimé poser quelques questions par rapport à mon ex-mari. J'avais une fille avec lui qui a maintenant 16 ans. Et on est divorcés, on va dire. Le juge, il a décidé normalement qu'il donne une pension alimentaire à sa fille.
D'accord.
Et il a donné deux fois, c'est-à-dire depuis 2008-2009, on va dire. Il n'a jamais redonné, jamais payé sa pension alimentaire, jamais demandé à sa fille rien du tout. Il a reconnu sa fille et tout.
Et il a payé la pension que deux fois, c'est ça. Et quelle est votre question par rapport à la pension, alors, Nadia ?
Ma question, c'est-à-dire, est-ce que je peux faire un recours ou voir un avocat ou...
Alors, il y a une règle en la matière, Nadia. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne est condamnée à régler une pension alimentaire, si elle ne règle pas deux mois d'affilée, vous avez la possibilité d'engager des procédures. Et de ce que vous me dites, là, vous avez tardé. Mais vous pouvez évidemment engager la procédure. Alors, elle est entre guillemets relativement simple. D'abord, votre jugement, j'imagine qu'il a été signifié, c'est-à-dire qu'il y a un huissier de justice qui a été voir monsieur en disant, voilà, madame est désormais divorcée, et donc ce jugement est applicable. Donc, ça signifie que monsieur devra respecter ce qui est dit, ce qui a été dit par le magistrat. Et si monsieur ne paye pas spontanément, je vous le redis, au bout de 2 mois, vous pouvez demander à un huissier d'intervenir, et puis l'huissier va aller chez monsieur, il peut faire toutes les saisies possibles et imaginables, saisies sur salaire, saisies sur son compte bancaire, il y a aussi des saisies, enfin j'allais dire de meubles et autres. Vous pouvez aussi vous adresser à la CAF, qui peut prendre la relève, donc vous payez la pension alimentaire et faire en sorte de récupérer, entre guillemets, l'argent qui a été avancé auprès de monsieur. Donc, quand c'est comme ça, faut pas tarder.
Oui, là j'ai tardé beaucoup. C'est depuis 2009.
Bah oui.
À ce jour, il a payé que 2 fois de sa vie. Et sa fille, il l'a vue en tout 2 ou 3 fois.
Oui, mais vous savez, madame, la difficulté, c'est-à-dire que...
Oui.
Imaginons que monsieur soit... Alors, il est peut-être de très mauvaise foi. Il pourrait ressaisir le juge et puis dire, alors effectivement, j'ai pas payé depuis 2009. Alors, cet argent est dû. C'est-à-dire que, enfin, il y a une prescription de 5 ans, hein. Mais, il peut aller voir le juge en disant, bah, dans ce cas-là, supprimer la pension alimentaire puisque depuis 2009, manifestement, madame n'en a pas besoin. Elle a même pas engagé de procédure contre moi.
Je l'ai appelé 1 ou 2 fois.
Non, mais vous savez, appeler juste 1 ou 2 fois, ça laisse pas entendre que madame veut faire exécuter le jugement. En plus, appeler, ça veut dire qu'il y a 0 preuve. Si j'étais l'avocat de monsieur, je l'inviterais à ressaisir le juge pour dire cette pension alimentaire. Je le redis, madame n'en a pas besoin. Alors certes, il a été condamné, vous devrez de l'argent, mais pour l'avenir, dire elle s'est jamais manifestée, elle se manifeste que maintenant. Et un juge pourrait vous poser la question, pourquoi vous manifestez que maintenant?
Oui, c'est vrai. Enfin, il n'y a pas de traces, comme vous dites. Mais à chaque fois que je l'ai au téléphone, 1 ou 2 fois, rarement comme ça. Et ouais, je vais le payer, pas de souci. Oui, il m'a payé 2 fois. Il a payé, ça fait pas très longtemps, l'année dernière, il lui a envoyé 50 euros. Il lui a envoyé un chèque.
Et la pension alimentaire est de combien?
Rien.
Ce qui a été décidé par le juge.
150 euros.
Bon, donc monsieur règle 50 euros sur 150 et une fois tous les 10 ans. Donc, mais alors évidemment, vous voyez, il est fautif, il n'y a pas de difficulté. Mais j'allais presque dire, vous êtes un peu complice du fait que monsieur ne fasse rien. Et c'est contre-productif. Et moi, je peux comprendre qu'un juge vous dise, madame, manifestement, cet argent, vous n'en avez pas besoin. Et c'est dommage.
Donc, moi, je travaille, je me suis remariée, mon mari, il a toujours travaillé, il a pris en charge ma fille.
Oui, bah donc vous n'avez peut-être pas besoin de cette pension alimentaire, alors, si vous travaillez ou vous êtes remarié, monsieur travaille. Vous voyez, c'est-à-dire que ça va être un argument pour le père de l'enfant en disant, manifestement, ça pose pas de difficulté, et le magistrat peut... rentre comme décision en disant bah, cet argent, chère madame, vous n'en avez pas besoin et donc monsieur ne sera plus condamné à vous régler quoi que ce soit.
Oui, voilà. Mais maintenant, la fille, elle grandit, elle a 2 ans de son permis de conduire, elle a ses études, elle a ses soins, juste pour payer tout ce qu'il fallait.
D'accord, elle a besoin de ça et puis demain, il faudra financer son mariage et le berceau de ses enfants, j'entends bien. Mais vous me dites, madame, que depuis toutes ces années, vous n'avez pas fait de procédure, que vous travaillez vous-même, que vous êtes remarié, que monsieur travaille, la probabilité, encore une fois, qu'un juge aille dans votre sens, elle est faible. Et je le redis, monsieur devrait même ressaisir le juge aux affaires familiales. Selon moi, il obtiendrait gain de cause sans difficulté.
Ah d'accord, oui, c'est la liberté, c'est vrai.
Mais vous voyez, c'est-à-dire que le juge, il peut rendre une décision qui va dans votre sens, en l'occurrence, elle a été dans votre sens. La difficulté, c'est que si je rends une décision qui va dans votre sens et que le premier concerné ou la première concernée ne fait rien pour appliquer cette décision, le magistrat finira, entre guillemets, par vous en vouloir. Moi, juge, j'ai fait mon boulot, mais si vous faites rien pour récupérer cet argent, je le redis, j'en conclus, vous n'en avez pas besoin. C'est ça qui est un peu triste. Alors que vous en avez peut-être besoin.
Certainement, moi, à chaque fois, je dis peut-être qu'il va comprendre tout seul.
Oui, enfin, depuis 2009, on va être en 2022. Ouais, si, enfin, voilà, c'est un peu long quand même pour comprendre quand même. Non, vous êtes indulgente.
À chaque fois, je dis je vais prendre rendez-vous avec un avocat ou avec un.
De 2009 à 2022, c'est long pour prendre rendez-vous avec l'avocat.
Maître Serran, oui. Vous voulez être gentil, 5 minutes, s'il vous plaît ?
Non, mais. Je suis gentil, mais la difficulté, c'est que cette femme a peut-être besoin de cet argent et elle se tire une balle dans le pied. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut aussi être diligent, avoir juste une décision et la regarder de temps en temps et la lire, ça sert à rien. Autant se nettoyer
Oui, c'est pas que j'ai pas besoin de cet argent.
Non, mais j'entends bien. C'est justement, madame, parce que vous en avez besoin. Oui. Je comprends bien. Mais vous plombez toute seule. C'est ça la difficulté.
Voilà, pas tant qu'aujourd'hui, pas cette semaine, et les années passent, et puis voilà, j'ai laissé tranquille, et lui, il comprend pas, il a complètement dit qu'il a...
Encore une fois, de 2009 à maintenant, oui, je crois que, enfin, il veut pas comprendre, mais... Vous savez, le truc, c'est que si vous le titillez pas, si vous engagez pas de procédure, si vous faites pas de vous invitez pas un huissier à faire le nécessaire, c'est peu probable que monsieur finisse par comprendre. Enfin voilà, il a pas compris depuis le début, il comprendra pas maintenant, hein.
Oui, exactement. Mais une fois, donc, quand il a arrêté de payer, j'ai engagé un huissier de justice, mais c'était à mes frais. C'est-à-dire, j'ai payé
c'est juste normal, hein. C'est-à-dire que l'huissier va pas intervenir comme ça, mais l'huissier récupère l'argent que vous avez, vous, financé auprès de l'intéressé. Donc oui, ce sera à vos frais, bien sûr. Bien sûr.
D'accord, bien sûr. Bien sûr, voilà, c'est ça. Et puis la première fois, ça fait très longtemps, on m'a demandé, c'est-à-dire, de faire des démarches avec un huissier de justice, mais c'est à mes frais.
C'est ce qu'on vient de se dire, madame, là.
Oui.
On vient de se dire ça. Hein.
Comme le papa, il dit que j'ai d'argent, j'avais des dettes,
mais,
etc.
Alors c'est une vraie question. On tombe pas un œuf. C'est-à-dire que je suis un huissier de justice. Je veux récupérer de l'argent auprès de monsieur. Si le type il bosse pas, si son compte est vide, j'ai rien à récupérer. Mais dans ce cas-là, la CAF prend la relève.
J'ai été deux fois à la CAF. Ils m'ont dit, c'est à vous d'envoyer ils m'ont donné un papier, une adresse, envoyer un courrier.
C'est normal, mais il leur faut un minimum d'informations. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir localiser monsieur, et puis il faut au moins un jugement et dire que vous avez essayé de faire quelque chose.
Bon, 12 ans après, c'est jouable ou pas, Maître Serran ? Ça, c'est la question.
Non, mais monsieur n'a même pas besoin d'avocat pour envoyer bouler, entre guillemets, madame. Là, il n'y a pas... Alors, il a été condamné, les sommes sont dues, en tout cas, dans la limite de la prescription, donc sur 5 ans. Mais a priori, moi, à la place de monsieur, je saisirai à nouveau le juge, et puis le magistrat ne condamnera pas monsieur à verser quoi que ce soit, bien sûr.
Bon, Nadia, si vous avez d'autres questions à poser à Maître Serran, vous pouvez le faire après l'émission, puisque Maître Serran va vous donner son numéro de téléphone portable.
Absolument.
Comme ça, tout le monde peut le noter. Maître Serran, 1-2-3, on y va.
C'est parti. Ouais. 06-62-58-59-64. 06-62-58-59-64.
Voilà, Nadia, ce qu'on pouvait vous dire ce matin. Merci pour votre appel. Désolé pour tous ceux qu'on n'a pas pu prendre, mais vous serez là vendredi prochain, Maître Serran.
Inch'Allah.
Surtout, n'attrapez pas froid. Hein.
Non. Hein? Je vais mettre un caleçon, peut-être.
Allez-y. Couvrez-vous, Maître. Et des chaussettes aussi.
Et des chaussettes.
Hein, parce qu'il fait froid, ça caille.
C'est vrai.
Donc, je vous le disais tout à l'heure, demain, rendez-vous avec l'imam Abdelali Mamoun entre 10h et 11h. Et je vous retrouve tout à l'heure pour vos petites annonces de l'emploi sur Beurre FM à partir de 11h.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.